Very good Bowie trip.
Tout un été en compagnie de David Bowie. 9 épisodes pour raconter le parcours d'un artiste insaisissable qui n'a jamais cessé de mourir pour mieux renaître.
Very good Bowie trip. Les 9 vies de David Bowie.
Aujourd'hui, on braque le projecteur sur la métamorphose la plus surprenante de David Bowie, celle qui, au début des années 80, a vu un excentrique et même une sorte d'extraterrestre devenir un crooner chic et funky, universellement connu. David Bowie en pleine période après-punk dans cette chanson diffusée en 45 tours en single au printemps 1979, Boys Keep Swingin', une chanson qui a été un tube à peu près partout en Europe, sauf en France, toujours rétive, voire méfiante envers ce personnage insaisissable qu'est David Bowie, lequel fascine beaucoup mais reste encore chez nous en marge d'un succès grand public. La chanson est extraite de l'album Lodger, le troisième de ce qu'on a pu appeler la trilogie berlinoise de Bowie, soit ses trois albums publiés entre 1977 et 1979 dans l'ordre Low, Heroes et donc Lodger. Une dénomination commode mais inexacte. Bien sûr, la musique de Bowie est alors fortement imprégnée par les découvertes et impressions qu'il a pu recueillir au cours de son séjour à Berlin-Ouest. Mais enfin, seul l'album Heroes a été effectivement réalisé au légendaire studio Hansa, un studio en partie délabré, situé dans le quartier de Kreuzberg, qui bordait le mur de Berlin. Quant à l'album Lodger, qui paraît donc au printemps 79, eh bien Bowie et ses musiciens l'ont enregistré à l'été précédent, incident en pleine canicule à Montreux, au bord du lac de Genève, dans un studio aux pièces minuscules, non loin du manoir bâti sur les hauteurs de Lausanne où réside désormais David Bowie. Et ce sera au très réputé Record Plant de New York où Neil Young, Bruce Springsteen, encore Patti Smith ont enregistré que Bowie et ses collaborateurs vont terminer le travail. Parmi eux, l'anglais Brian Eno, je vous en ai déjà parlé, qui joue un rôle de premier plan. Et sa présence dans l'album Lodger est encore plus marquée que dans les deux précédents, Low et Heroes. Il faut rappeler que Eno occupe alors une place absolument unique. Historiquement, déjà, au sein d'un groupe de rock, il a été le premier à injecter en direct sur une scène des sons générés par une machinerie électronique encore primitive. C'était en 1972 au sein du groupe Roxy Music. Les albums solo que Eno a publiés ensuite, dans lesquels il chante ses propres chansons, se situent à un captivant point de rencontre entre une espèce de naïveté enfantine ou primitive, si vous préférez, et les expérimentations sonores de l'avant-garde musicale. C'est justement ce qui passionne Bowie. Alors, il faut quand même rappeler le contexte. La hantise de Bowie dans ses années 78-79, c'est alors qu'on le prenne pour un ringard, qu'on le mette dans le même sac que les musiciens de sa génération, les Led Zeppelin, Rolling Stones ou autres Pink Floyd. On l'a oublié, on l'a même minimisé depuis, mais il y a plus de 40 ans, les punks ont descendu en flammes ceux qu'ils appellent des dinosaures et les musiciens de l'après-punk snobent toute cette génération-là. Beaucoup croient alors sérieusement que le temps justement de ces dinosaures ne reviendra plus jamais. En tout cas, David Bowie sent que grâce à Brian Eno, il va pouvoir rester dans la course, continuer à créer la surprise. Il donne donc carte blanche à Eno pour l'enregistrement de l'album Lodger qui s'achève à New York. D'autant que Eno a des antennes, une intuition de devin. Débarqué à New York l'année précédente, en 78, il a commencé à collaborer avec un groupe phare de la nouvelle vague, les Talking Heads. Il a découvert également une autre vague, bien plus extrême, des performeurs qui poussent la fureur des punks plusieurs crans plus loin, Lydia Lunch ou encore le saxophoniste de free jazz, James Chance. Ce que certains s'amusent à appeler la No Wave, hein, la non-vague. Eno supervise là-bas d'ailleurs une compilation qui s'appelle No New York qui permet de découvrir cette non-vague. Autant dire que Brian Eno, pour Bowie, est une sorte de gourou entre les mains duquel il se remet, exécutant ses idées les plus farfelues. Alors, je vous avais parlé du jeu de cartes, une sorte de tarot surréaliste baptisé les stratégies obliques que Eno a mis au point avec un peintre anglais habitant Berlin, Peter Schmidt. Alors, quand une séance d'enregistrement s'éternise ou patine, eh bien, les musiciens tirent une carte. Et pour la chanson qu'on vient d'entendre, Boys Keep Swinging, justement, la carte, l'oracle, hein, si vous préférez, dit « utiliser des gens non qualifiés ». Ce qui donne évidemment une brillante idée à Eno, qui demande aux musiciens de Bowie de permuter leurs instruments. C'est ainsi que le guitariste Carlos Alomar se met à la batterie. Le batteur Dennis Davis, gaucher, se saisit non sans mal de la basse de George Murray. Et puis à une autre fois, Eno va inscrire le nom des accords sur un grand tableau et, armé d'une règle de maître d'école, va indiquer aux musiciens qui improvisent à quel moment il faut changer de tonalité. Alors bien sûr, parmi les musiciens, ça râle beaucoup, ça ricane évidemment. Et parfois, ces jeux farfelus ne donnent absolument rien. Et d'ailleurs, le réalisateur artistique Tony Visconti devra refaire lui-même, des semaines plus tard, la partie de basse malhabile de Boys Keep Swingin'. Mais cette méthode peut aussi produire des miracles. Convoqué pour une séance à New York, le guitariste Adrian Belew ignore tout, par exemple, de la tonalité d'une chanson qu'on lui fait écouter dans son casque. Et pour cause, évidemment, c'est la première fois qu'il l'entend. On lui indique juste le type de rythme, le tempo, et c'est absolument tout. Bowie et Eno lui donnent une seule consigne, improvise, lâche-toi, fais-nous le truc le plus délirant possible. Alors, Belew s'exécute, et dans la chanson Boys Keep Swinging, justement, eh bien, ça marche à merveille.
Very Good Bowie Trip, Mishka Assayas, sur France Inter.
Alors, quand on y repense, ces années ont vraiment quelque chose de magique, hein, comme au temps des Beatles de la seconde moitié des années 60. Après tout, on est, quoi, une dizaine d'années plus tard. Beaucoup de musiciens, de la musique populaire, de premier plan, les plus intéressants, mettent le cap vers l'expérimentation. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur d'être oubliés, d'être ringardisés, comme on dirait aujourd'hui, par un public avide de nouveautés. Et, de l'autre côté, les musiciens de l'avant-garde, de l'underground, ne cherchent pas du tout à s'enfermer dans un ghetto snob et dédaigneux. Pas du tout, au contraire. Ils veulent injecter leurs inventions attention au sein de la musique populaire. Une dernière chose à propos de cette chanson Boys Keep Swingin', c'est une chanson pleine d'ironie, en apparence une chanson à la gloire des jeunes hommes, des mâles, une sorte de parodie de chanson de marin. Voilà, quand t'es un gars, tu mets un uniforme, rien ne te résiste, le ciel s'ouvre devant toi, etc., etc. Une chanson dont le style, hein, ça s'entend, inspirera beaucoup une vingtaine d'années plus tard Damon Albarn et le groupe Blur. Alors c'est rigolo, dans la vidéo accompagnant cette chanson Boys Keep Swingin', Bowie apparaît accompagné par trois choristes féminines. En fait, c'est lui travesti en trois femmes différentes. Il y a l'héroïne d'un feuilleton, alors on ne disait pas encore série en ce temps-là, très populaire à la télévision britannique, c'était Coronation Street, et puis deux immenses stars de cinéma encore vivantes, l'américaine Lauren Bacall et l'allemande Marlene Dietrich. Et à la fin de la vidéo, les trois incarnations de Bowie en travesti retirent leur perruque et effacent leur maquillage en le frottant vigoureusement du revers de la main avec une espèce de moue ricanante. Et Bowie, c'est un peu la fatalité du comédien chez lui, adore se déguiser, voire se travestir pour se sentir exister. Et puis à la fin, il y a souvent chez lui ce sursaut ricanant, cette distanciation, comme dans le théâtre de Bertolt Brecht, où il montre qu'il n'est pas dupe, où il peut même révéler une sorte de vertige, sa façon à lui de se mettre à nu.
Waiting so long.
Scary Monsters and Super Creeps, monstres effrayants et super crapules. Voilà, c'était le titre de la chanson signée David Bowie qu'on vient d'entendre. Elle figurait dans l'album du même nom, sorti à la fin de l'été 1980 et qui a marqué un tournant dans sa carrière, faisant de lui, pour la première fois, une star dans toute l'Europe, une star de premier plan, y compris pour la première fois en France, où l'album a remporté un disque d'or, plus de 100 000 exemplaires écoulés. En grande partie grâce à un tube Ashes to Ashes et à la vidéo mémorable qui l'accompagnait. C'était au temps où, vous savez, ces petits films bénéficiaient encore d'importants budgets et se voulaient parfois de petites œuvres d'art, des miniatures animées destinées au grand public. Voilà, on y reviendra. Juste avant, on a entendu la chanson Look Back in Anger, extraite de l'album précédent, Lodger, qui, comme je vous le disais, était le sommet de la collaboration entre David Bowie et Brian Eno. Une chanson où il est question de la visite d'un ange venu annoncer une très mauvaise nouvelle, l'ange de la mort, dira Bowie, qui plus d'une fois l'a senti venir le frôler. Impossible, quand on écoute cette chanson, de ne pas sentir monter une sorte de fièvre. On est comme soulevé de terre par la fougueuse intensité du batteur et percussionniste Dennis Davis. Sa frappe polyrythmique vous met comme en transe. Alors il y a trois musiciens new-yorkais de premier plan qui accompagnent Bowie depuis 5 ans déjà. Donc Dennis Davis, le batteur, formé par deux maîtres du jazz, Max Roach chez Alvin Jones, c'est pas n'importe qui, Carlos Alomar à la guitare rythmique et le bassiste de funk George Murray, deux noirs et un portoricain, un trio familièrement appelé D.A.M. qui apporte à la musique de David Bowie avant, pendant et après sa période dite berlinoise un groove et une chaleur incandescente. En apparente contradiction avec la froideur qui se dégage des thèmes et même plus généralement du personnage de Bowie. Mais en fait, la contradiction n'est peut-être qu'apparente. La froideur de Bowie n'a rien d'une pose, d'une attitude délibérément guindée comme on a trop souvent pu le croire. Bien au contraire. Il existe, comme gelé dans le cœur hivernal de David Bowie, un désir de danse, de transe, de joie, qui ne demande qu'à se libérer. Et sa voix au lyrisme théâtral, très très vieille école, c'est vrai, c'est cette voix de music hall qui peut sembler en porte-à-faux avec cette musique, et bien justement, elle chante ce qui lui manque, et c'est peut-être ce tiraillement qui en fait la beauté. Bowie lance en fait un appel effréné à la délivrance, à la fonte des glaces. D'ailleurs, c'est impossible de ne pas rapprocher ce Bowie-là d'un autre musicien blanc, nord-américain, lui, David Byrne, le cofondateur du groupe Les Talking Heads, dont Brian Eno sera également très proche et auprès duquel eh bien Eno va poursuivre le travail qu'il a entamé auprès de Bowie. Eno va de fait contribuer largement à façonner le quatrième album des Talking Heads, Remain in Light, qui paraît à la fin de l'année 1980, donc finalement quelques mois à peine après Scary Monsters. Et David Byrne, lui aussi est un chanteur qui a une voix très blanche, une voix haute, gutturale et étranglée. Lui aussi est un passionné de soul, de funk, de salsa, de rythme portoricain, dans le cas de Byrne également de samba brésilienne et de musique africaine. Et la voix de Byrne également semble lancer un appel à la chaleur et à la sensualité qui lui reste, pour ainsi dire, bloqué dans la gorge. Alors, quelques mois plus tôt, je viens de vous le dire, est paru donc l'album de Bowie, Scary Monsters and Super Creeps, le 14e déjà de sa carrière, et le premier, il était temps, à vraiment séduire, comme je vous le disais, un très vaste public tout autour du monde. L'équipe rythmique est toujours la même, mais pour la première fois, Brian Eno est absent. Oui, une page se tourne, et peut-être que Bowie commence à se sentir plus sûr de lui, plus sûr de son coup, on pourrait dire. Il vient en effet de divorcer de sa femme américaine, Angie, il se sent à ce moment-là comme délivré. Il vit désormais à New York, où règne une ambiance électrique à la fois sordide et flamboyante qui l'inspire. L'énergie de New York est très très présente dans ce qu'enregistre Bowie à ce moment-là. Il est beaucoup plus concentré que d'habitude. Pour la première fois depuis longtemps, il s'assoit au piano pour écrire les paroles de ses chansons. Vous savez qu'avant, il assemblait toujours des bribes écrites au dernier moment. L'enregistrement de Scary Monsters a lieu dans un nouveau studio new-yorkais qui s'appelle The Power Station. Il y a un ingénieur du son qui a travaillé pour la célèbre firme Motown qui vient d'équiper ce studio dans un immeuble délabré de Manhattan et tout y sonne, paraît-il, 100 fois mieux qu'ailleurs. D'ailleurs, Bruce Springsteen et le groupe The Clash viennent d'enregistrer là. Alors, l'expérimentation est toujours présente chez Bowie. Les solos de guitare atonales de l'anglais Robert Fripp, vous venez d'en entendre un, parcourent encore la moitié des titres de l'album Scary Monsters, mais quelque chose semble plus assuré, plus ferme, plus droit, on pourrait dire. On remarque beaucoup le titre que vous allez entendre tout de suite, Fashion. C'est une chanson qui a été inspirée à Bowie par l'ambiance nouvelle qu'il ressent à New York. Et voilà ce qu'il déclare à cette époque. Quand j'ai commencé à fréquenter les discothèques à New York, c'était le début des années 70, il y avait une espèce d'enthousiasme à haute intensité. Mais aujourd'hui, ça a complètement changé. On a l'impression que ça a disparu et qu'à la place, les gens n'ont plus qu'une détermination maussade à être à la mode, comme si c'était une vocation. Il faut dire que c'est une excellente définition de ce tout début des années 80 que j'ai connu à Paris, où il y avait en effet beaucoup d'énergie, une sorte de recherche froide, d'extravagance élégante, accompagnée d'une certaine morgue, mais il y avait très peu de joie. La joie, c'était ringard dans le milieu débranché, comme on disait. We'll be right back.
blissful in this resonant world. You want to fight, but I don't want to leave or drift away. Glances, look at this, no value of love. Look at this, just sun and steel. Look at this, then look at us. If there's someone in charge, then listen to me. Don't say nothing's wrong, 'cause I've got a drift away.
Retour en arrière, très léger, hein, juste une année, histoire de vous faire entendre une dernière fois un sommet du David Bowie expérimental. La chanson intitulée Yassasen, entre parenthèses Turkish for long live, c'est-à-dire longue vie en turc, hein, figure dans l'album Lodger, soit son ultime collaboration avec Brian Eno en 79, ultime collaboration avant longtemps. Bowie avait déjà essayé de traduire en musique les impressions qu'avaient produites sur lui ses balades à Berlin, le long des immeubles d'Ekati, où vivait la communauté turque. Et d'ailleurs, dans l'album Heroes, il avait enregistré un instrumental tout à fait surprenant, intitulé Neukölln, d'après le nom justement de ce quartier hein, qui longeait le mur au sud de Kreuzberg, sur un fond de longs accords de synthétiseurs planants, hein, joués par Eno. Eh bien, Bowie s'était lancé dans un solo de saxophone atonal, censé évoquer la gamme modale de la musique turque. Et dans Yassasin, un étrange reggae turc, Bowie se livre à une non moins étonnante imitation de certains chants qu'on pouvait sans doute entendre dans les cafés de Neukölln. Le violoniste Simon House joue d'un violon du Moyen-Orient ainsi que de la mandoline, hein, en essayant d'imiter la sonorité du oud, enfin plus précisément du saz, hein, l'espèce de luth qui est très présent dans la musique turque. Et Eno et Bowie chantent des chœurs bizarres, c'est d'une totale approximation, c'est le fruit de leur imagination naïve, d'une musique dont ils n'ont pas la clé, et c'est peut-être précisément ça qui fait le charme et la beauté de Yassasin. Alors, il est arrivé à la fin de cette année 1980, ce qui devait arriver. David Bowie a eu son premier tube dans toute l'Europe, y compris en France, grâce à une chanson dont beaucoup doivent se souvenir, Ashes to Ashes. Elle était accompagnée d'une vidéo très élaborée, à l'époque c'était nouveau, on appelait ça des clips, et quand ils apparaissaient à la télévision, il y avait quelque chose de magique, certains les enregistraient au magnétoscope, je me rappelle avoir fait ça. David Bowie apparaissait dans ce petit film sous trois incarnations différentes. D'abord, en costume de clown flamboyant, paré de plumes et maquillé de blanc, les lèvres dessinées, hein, très rouges. On le voyait marcher sur une plage la nuit. Et le costume était clairement une réminiscence de ses débuts de mime. Ensuite, on le découvrait en jean et en chemise, enfermé dans une cellule capitonnée d'hôpital psychiatrique très haute de plafond. Enfin, comme sorti d'un vieux film en noir et blanc, on le voyait assis dans une espèce de fauteuil de dentiste de science-fiction avec des fils et des boutons partout, vêtu d'une espèce de combinaison bizarre entre le cosmonaute et l'homme grenouille. La chanson Ashes to Ashes, une de ses plus belles mélodies, vous allez l'entendre, met en scène l'astronaute de son premier succès Space Oddity en 69, Major Tom. Major Tom, oui, continue à tourner là-haut dans le cosmos, dans son vaisseau spatial. Mais Major Tom est complètement égaré, il a perdu le sens de sa mission, il est devenu, c'est ce que dit la chanson en tout cas, un junkie égaré qui rêve de revenir sur Terre. Il y a toujours cette intuition centrale chez Bowie que le rêve est mort, que tout se dégrade et que l'humain n'en finit plus de chuter et de s'anéantir. Alors, dans le clip, sur la plage, on le voyait accompagné par quatre personnages qu'il avait recrutés dans une boîte de Londres qui s'appelait le Blitz, où se retrouvait une petite clique de gamins déguisés de manière extravagante. Les filles, par exemple, étaient vêtues en nonnes glamour. Les garçons, par exemple, en page vénitien, voilà, on les appelait les nouveaux romantiques. Et quelques-uns, comme Boy George de Culture Club, ou encore Steve Strange, qu'on voit dans le clip, allaient se faire un nom dans la musique. Et Bowie était absolument fasciné par ces gamins qui, d'une certaine façon, étaient comme les petits frères et les petites sœurs de Ziggy Stardust, qui ne se sentaient exister qu'en incarnant, dans la vraie vie aussi, pas seulement dans le cadre d'une discothèque, des personnages à la fois tristes et flamboyants, nés de leur imagination et de leur rêve.
To ashes, bunk to bucket, we know. people on streets.
So slashed and torn.
Under Pressure, une chanson bien connue signée conjointement par le groupe Queen et David Bowie qu'on entendait partout à la fin de l'année 1981, le fruit d'une collaboration imprévue, spontanée dans le studio d'enregistrement Mountain, situé dans un immeuble au sein du complexe du Casino de Montreux, au bord du lac de Genève, un studio où Bowie a fait ses habitudes et où travaillait un soir de juillet 1981 le groupe Queen, propriétaire des lieux. Bowie enregistrait ce jour-là avec le légendaire réalisateur artistique italien Giorgio Moroder, je vais vous en parler. Il avait naturellement rendu visite à ses voisins de travail et cette visite s'était éternisée, agrémentée, selon les témoignages, par quelques bouteilles de vin vaudois et un peu de poudre blanche. Elle s'est transformée en une séance de travail spontanée. Le groupe Queen a d'abord invité Bowie à chanter des chœurs pour un morceau déjà enregistré, mais les choses ont vite évolué et ça a tourné à l'improvisation. Bowie a repéré une ligne de basse jouée par John Deacon, le bassiste de Queen. Il l'a même rectifiée et une fois qu'ils se sont mis d'accord sur une structure, eh bien David Bowie et Freddie Mercury ont enregistré séparément les mélodies distinctes qui leur passaient par la tête et en quelques heures, l'essentiel était bouclé. Le lendemain, ils se sont retrouvés. Mercury et Bowie ont bricolé des paroles, ils les ont chantées. Et voilà, la chanson Under Pressure était pratiquement pliée. Quelques semaines plus tard, on la mixait au studio The Record Plant à New York. Et en octobre de la même année, elle sortait un 45 tours et devenait un tube mondial. Bah oui, c'était souvent simple en ce temps-là. Alors, en discutant avec les membres du groupe Queen, Bowie se rend compte que leur maison de disques, EMI, leur accorde une totale liberté artistique. La confiance des deux côtés est totale et la réussite cite également. Il se trouve que Bowie a d'anciens griefs vis-à-vis de sa compagnie de disques RCA, Il reproche notamment à ses responsables de n'avoir dégagé aucun budget pour promouvoir ses trois albums de la trilogie dite berlinoise Low, Heroes et Larger, que ceux-ci avaient jugé, non sans fondement d'ailleurs, anticommerciaux et invendables au grand public. Le succès de Ashes to Ashes et de l'album Scary Monsters permet en somme à David Bowie de prendre une revanche. Il envisage de ne pas renouveler son contrat et il se met en quête de nouveaux partenaires pour une nouvelle étape. Il les trouvera. Cette période new-yorkaise du début des années 80 est riche en nouvelles expériences. L'été de cette année-là, on propose à David Bowie de remplacer l'acteur principal de la pièce The Elephant Man, qui se joue dans un théâtre de Broadway. Alors, on connaît par le film de David Lynch, tourné la même année, d'ailleurs tout à fait différent de la pièce, l'histoire de cet homme au visage monstrueusement déformé, John Merrick, qui avait vécu à l'époque victorienne en Angleterre et dont la vie fut un calvaire. Il se trouve que Jack Hofseis, le metteur en scène de Broadway, a eu cette idée fulgurante de prendre Bowie. Il se déclare extrêmement impressionné par l'authenticité que Bowie apporte au personnage. On sentait, se rappelle Hofseis, qu'il connaissait tellement intuitivement ce Londres lugubre de la période victorienne, qui n'avait pas tellement changé en à peine plus d'un demi-siècle, qu'il était The Elephant Man. D'ailleurs, Bowie savait ce que c'était de subir les moqueries et les brutalités parce qu'on n'est pas comme les autres, de se faire regarder par certains avec dégoût comme un monstre. Il avait très bien connu ça au temps de Ziggy Stardust. Alors, il y a un détail de l'histoire assez effrayant que j'ai appris récemment, c'est que Mark Chapman, l'assassin de John Lennon, avait pris une place au premier rang pour voir The Elephant Man à Broadway avant la fin de l'année 1980. Authentique.
Very good Bowie trip sur France Inter.
Alors, je vous parlais de la collaboration de David Bowie avec le groupe Queen à l'été 1981. Toujours à Montreux, en Suisse, il enregistre cet été-là une autre chanson, moins commerciale, moins radiophonique, que lui a commandé l'inventeur de la disco électronique, l'Italien Giorgio Moroder. Moroder supervise la BO du film Cat People, la féline en français, avec Nastassia Kinski. C'est le remake réalisé par le cinéaste new-yorkais Paul Schrader d'un film d'horreur au relent érotique qui remonte aux années 40. Bowie écrit et interprète la chanson-titre Cat People, entre parenthèses, Putting Out Fire. On y entend cette voix basse, froide et détachée, sans doute la plus authentique de David Bowie. Et juste après, vous entendrez aussi quelque chose de tout à fait à part, une interprétation exceptionnelle par Bowie d'une ancienne mélodie allemande, La jeune fille noyée. Alors je vous résume l'histoire, elle est tout à fait inattendue. En 1981, un réalisateur britannique de la BBC, Alan Clark, souhaite adapter pour la télévision une pièce de jeunesse de Bertolt Brecht, Baal. Clark souhaite que ce soit David Bowie qui incarne ce personnage de Baal, un poète vagabond, buveur et dépravé, vaguement inspiré de la jeunesse dissolue d'Arthur Rimbaud. Et en 1970, d'ailleurs, l'auteur, acteur et metteur en scène allemand Rainer Werner Fassbinder avait incarné Baal le maudit dans un téléfilm réalisé par Volker Schlöndorff. Pour la musique, Bowie a un coup de génie. Il enregistre, accompagné par un grand orchestre classique, 5 titres où il récite des textes de Brecht. Parmi eux, une mélodie, l'extrait d'une cantate qu'a composé Kurt Weill d'après un poème de Brecht, donc Das Berliner Requiem, le Requiem berlinois. Il s'agit d'une commande qu'a passée à Kurt Weill la radio de Francfort en 1928, année qui marquait le 10e anniversaire de la fin de la Grande Guerre. Et dans ce Requiem figure un air qui s'appelle Vom ertrunkenen Mädchen, la jeune fille noyée, The Drowned Girl. Voilà. Une allusion transparente pour les Allemands d'alors à la mort violente de la cofondatrice du Parti communiste allemand, Rosa Luxemburg, tuée d'une balle dans la tête par les militaires chargés de l'arrêter et dont on a jeté le corps dans un canal. Et pour David Bowie, bien sûr, l'image de la noyade rappelle sûrement aussi la mort d'Ophélie dans Hamlet, la pièce de Shakespeare, Ophélie qui, après l'assassinat de son père Polonius par le jeune prince fou, devient folle de chagrin et tombe dans un ruisseau où elle se noie.
It's just the fear of losing you. Don't you know my name? Well, you've been so long, and I've been putting out fire with gasoline.
I wouldn't be speechless heart that can never mend, whose tears can never dry. A judgment made can never bend. See these eyes so green, I can't stand.
Kept the brightness still soaring, but it quickly grew clear when dawn now broke, to see that she got one further morning. Once her pallid trunk had rotted beyond repair, slowly that she gently slid from God's thoughts, first with her face, then her hands, right at the last with her hair, leaving those cords choked rivers just
when I look at my China girl. visions of swastikas in my head.
Everything you are, you know, I'll give you television, I'll give you eyes of blue, I'll give your man a voice to rule the world. And when I get excited, my little China girl says, oh baby, just you shut your mouth.
Un avant-goût du David Bowie que nous retrouverons dans le prochain épisode, le 7e de ses aventures toujours inattendues. Cette chanson qu'on vient d'entendre, China Girl, figure dans l'album Let's Dance, un triomphe mondial en 1983. Iggy Pop l'avait déjà créé 6 ans auparavant dans son album The Idiot, que son grand ami Bowie avait intégralement coécrit et réalisé avec lui. On découvrira dans l'épisode suivant avec étonnement comment le crooner chic et funky que Bowie était devenu s'est brusquement réveillé pour se déconstruire et se réinventer à nouveau.